Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 29e, Ambassade de Rome. Ambassade de Rome. Trois espèces de matériaux. 2. Journal de route. 3. Lettres à Madame Récamier. 4. Léon XII et les cardinaux. 5. Les ambassadeurs. 6. Les anciens artistes et les artistes nouveaux. 7. Ancienne société romaine. 8. Mœurs actuelles de Rome. 9. Les lieux et le paysage. 10. Lettre à Monsieur Villemain. 11. À Madame Récamier. 12. Explication sur le mémoire qu'on va lire. 13. Mémoire. 14. À Madame Récamier. 15. Dépêche à Monsieur le Comte de la Ferronnays. 16. À Madame Récamier. 17. Mort de Léon XII, dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Chapitre 1. Ambassade de Rome. Trois espèces de matériaux. Ce que je viens d'écrire en 1839 de Madame de Staël et de Madame Récamier rejoint le livre de mon ambassade de Rome, écrit en 1828 et 1829. Il y a 10 ans. J'ai introduit le lecteur dans un petit canton détourné de l'Empire, tandis que cet Empire accomplissait son mouvement universel. Je me trouve maintenant conduit à mon ambassade de Rome. Pour ce livre, les matériaux ont abondé. Ils sont de 3 sortes. Les premiers contiennent l'histoire de mes sentiments intimes et de ma vie privée, raconté dans les lettres adressées à Madame Récamier. Les seconds exposent ma vie publique, ce sont mes dépêches. Les troisièmes sont un mélange de détails historiques sur les papes, sur l'ancienne société de Rome, sur les changements arrivés de siècles en siècles dans cette société, etc. Parmi ces investigations se trouvent des pensées et des descriptions, fruit de mes promenades. Tout cela a été écrit dans l'espace de 7 mois, tant de la durée de mon ambassade au milieu des fêtes ou des occupations sérieuses. Entre parenthèses, en relisant ces manuscrits, j'ai seulement ajouté quelques passages d'ouvrages publiés postérieurement à la date de mon ambassade de Rome. Note de l'auteur. Néanmoins, ma santé était altérée. Je ne pouvais lever les yeux sans éprouver des éblouissements. Pour admirer le ciel, j'étais obligé de le placer autour de moi, en montant au haut d'un palais ou d'une colline. Mais je guéris la lassitude du corps par l'application de l'esprit. L'exercice de ma pensée renouvelle mes forces physiques. Ce qui tuerait un autre homme me fait vivre. Au revu de tout cela, une chose m'a frappé. À mon arrivée dans la ville éternelle, je sens une certaine déplaisance, et je crois un moment que tout est changé. Peu à peu la fièvre des ruines me gagne, et je finis, comme 1000 autres voyageurs, par adorer ce qui m'avait laissé froid d'abord, la nostalgie et le regret du pays natal. Aux rives du Tibre, on a aussi le mal du pays, mais il produit un effet opposé à son effet accoutumé. on est saisi de l'amour des solitudes et du dégoût de la patrie. J'avais déjà éprouvé ce mal lors de mon premier séjour, et j'ai pu dire « Agnoxco veteris, vestigia flammae ». Vous savez qu'à la formation du ministère Martignac, le seul nom de l'Italie avait fait disparaître le reste de mes répugnances. Mais je ne suis jamais sûr de mes dispositions en matière de joie. Je ne fus pas plutôt parti avec Madame de Chateaubriand que ma tristesse naturelle me rejoignit en chemin. Vous allez vous en convaincre par mon journal de route. Chapitre 2. Journal de route. Lausanne, 22 septembre 1828. J'ai quitté Paris le 16 de ce mois. J'ai passé le 17 à Villeneuve-sur-Yonne. Que de souvenirs! Joubert a disparu. Le château abandonné de Passy a changé de maître. Il m'a été dit « Soyez la cigale des nuits ». Esto cicata noctium. Arona, 25 septembre. Arrivé à Lausanne le 22, j'ai suivi la route par laquelle ont disparu deux autres femmes qui m'avaient voulu du bien et qui, dans l'ordre de la nature, me devaient survivre. L'une, Madame la marquise de Custine, est venue mourir à Bex. L'autre, Madame la duchesse de Duras, il n'y a pas encore un an, courait au Simplon, fuyant devant la mort qui l'atteignit à Nice. Noble Clara, digne et constante amie, ton souvenir ne vit plus en ces lieux. De ce tombeau l'on détourne les yeux. Ton nom s'efface et le monde t'oublie. Le dernier billet que j'ai reçu de Madame de Duras fait sentir l'amertume de cette dernière goutte de la vie qu'il nous faudra tous épuiser. Nice, 14 novembre 1827. Je vous ai envoyé un Asclepias carnata. C'est un laurier grimpant de pleine terre, qui ne craint pas le froid, et qui a une fleur rouge comme le camélia, qui sent excellent. Mettez-le sous les fenêtres de la bibliothèque du Bénédictin. Je vous dirai un mot de mes nouvelles. C'est toujours la même chose. Je languis sur mon canapé toute la journée, c'est-à-dire tout le temps où je ne suis pas en voiture ou à marcher dehors, ce que je ne puis faire au-delà d'une demi-heure. Je rêve au passé. Ma vie a été si agitée, si variée, que je ne puis dire que j'éprouve un violent ennui. Si je pouvais seulement coudre ou faire de la tapisserie, je ne me trouverais pas malheureuse. Ma vie présente est si éloignée de ma vie passée qu'il me semble que je lis des mémoires ou que je regarde un spectacle. Ainsi je suis rentrée dans l'Italie privée de mes appuis, comme j'en sortis il y a 25 ans. Mais à cette première époque, je pouvais réparer mes pertes. Aujourd'hui, qui voudrait s'associer à quelques vieux jours? Personne ne se soucie d'habiter une ruine. Au village même du Simplon, j'ai vu le premier sourire d'une heureuse aurore. Les rochers, dont la base s'étendait noircie à mes pieds, resplendissaient de rose au haut de la montagne, frappés des rayons du soleil. Pour sortir des ténèbres, il suffit de s'élever vers le ciel. Si l'Italie avait déjà perdu pour moi de son éclat lors de mon voyage à Vérone en 1822, dans cette année 1828, elle m'a paru encore plus décolorée. J'ai mesuré les progrès du temps. Appuyé sur le balcon de l'auberge à Arona, je regardais les rivages du lac majeur, peints de l'or du couchant et bordés de flots d'azur. Rien n'était doux comme ce paysage que le château bordait de ses créneaux. Ce spectacle ne me portait ni plaisir ni sentiment. Les années printanières marient à ce qu'elles voient leurs espérances. Un jeune homme va errant avec ce qu'il aime ou avec les souvenirs du bonheur absent. S'il n'a aucun lien, il en cherche. Il se flatte à chaque pas de trouver quelque chose. Des pensées de félicité le suivent. Cette disposition de son âme se réfléchit sur les objets. Au surplus, je m'aperçois moins du rapetissé de la société actuelle lorsque je me trouve seule. laissé à la solitude dans laquelle Bonaparte a laissé le monde, j'entends à peine les générations débiles qui passent et vagissent au bord du désert. Bologne, 28 septembre 1828. À Milan, en moins d'un quart d'heure, j'ai compté 17 bossus passant sous la fenêtre de mon auberge. La Schlage allemande a déformé la jeune Italie. J'ai vu dans son sépulcre Saint Charles Borromée, dont je venais de toucher la crèche à Arona. Il comptait 244 années de mort. Il n'était pas beau. À Borgo San Donnino, Madame de Chateaubriand est accourue dans ma chambre au milieu de la nuit. Elle avait vu tomber ses robes et son chapeau de paille des chaises où ils étaient suspendus. Elle en avait conclu que nous étions dans une auberge hantée des esprits ou habitée par des voleurs. Je n'avais éprouvé aucune commotion dans mon lit. Il était pourtant vrai qu'un tremblement de terre s'était fait sentir dans l'Apennin. Ce qui renverse les cités peut faire tomber les vêtements d'une femme. C'est ce que j'ai dit à Madame de Chateaubriand. Je lui ai dit aussi que j'avais traversé sans accident, en Espagne, dans la Vega du Xénil, un village culbuté la veille par une secousse souterraine. Ces hautes consolations n'ont pas eu le moindre succès, et nous nous sommes empressés de quitter cette caverne d'assassins. La suite de ma course m'a montré partout la fuite des hommes et l'inconstance des fortunes. À Parme, j'ai trouvé le portrait de la veuve de Napoléon. Cette fille des Césars est maintenant la femme du comte de Neipperg. Cette mère du fils du conquérant a donné des frères à ce fils. Elle a fait garantir les dettes qu'elle entasse par un petit Bourbon qui demeure à Luc et qui doit, s'il y a lieu, hériter du duché de Parme. Bologne me semble moins désert qu'à l'époque de mon premier voyage. J'y ai été reçu avec les honneurs dont on assomme les ambassadeurs. J'ai visité un beau cimetière. Je n'oublie jamais les morts. C'est notre famille. Je n'avais jamais si bien admiré les Caraches qu'à la nouvelle galerie de Bologne. J'ai cru voir la Sainte Cécile de Raphaël pour la première fois, tant elle était plus divine qu'au Louvre, sous notre ciel barbouillé de suie. Ravenne, 1er octobre 1828. Dans la Romagne, pays que je ne connaissais pas, une multitude de villes, avec leurs maisons enduites d'une chaux de marbre, sont perchés sur le haut de diverses petites montagnes, comme des compagnies de pigeons blancs. Chacune de ces villes offre quelque chef-d'œuvre des arts modernes ou quelque monument de l'Antiquité. Ce canton de l'Italie renferme toute l'histoire romaine. Il faudrait le parcourir Tite-Live, Tacite et Suétone à la main. J'ai traversé Imola, évêché de Pie VII, et Faenza, patrie de Rossini. À Forlì, je me suis détourné de ma route pour visiter à Ravenne le tombeau de Dante. En approchant du monument, j'ai été saisi de ce frisson d'admiration que donne une grande renommée, quand le maître de cette renommée a été malheureux. Alfieri, qui avait sur le front Il pallor della morte et la speranza, se prosterna sur ce marbre et lui adressa son sonnet « Ô gran padre Aligher !» Devant le tombeau, je m'appliquai ce vers du purgatoire. « Frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. »« Frère, le monde est aveugle et tu viens bien de lui. » Béatrice m'apparaissait. Je la voyais telle qu'elle était lorsqu'elle inspirait à son poète le désir de soupirer et de mourir de pleurs. Di sospirare et di morir di pianto. Ô ma pieuse chanson, dit le père des muses modernes, va pleurant à présent. Va retrouver les femmes et les jeunes filles à qui tes sœurs avaient accoutumé de porter la joie. Et toi, qui es fille de la tristesse, va-t'en, inconsolée, demeurer avec Béatrice. Et pourtant, le créateur d'un nouveau monde de poésie oublia Béatrice quand elle eut quitté la terre. Il ne la retrouva, pour l'adorer dans son génie, que quand il fut détrompé. Béatrice lui en a fait le reproche, lorsqu'elle se prépare à montrer le ciel à son amant. « Je l'ai soutenu, Dante, dit-elle aux puissances du paradis. Je l'ai soutenu quelque temps par mon visage et mes yeux d'enfant. Mais quand je fus sur le seuil de mon second âge et que je changeai de vie, il me quitta et se donna à d'autres. » Dante refusa de rentrer dans sa patrie au prix d'un pardon. Il répondit à l'un de ses parents, « Si pour retourner à Florence, il est né d'autre chemin que celui qui m'est ouvert, je n'y retournerai point. Je puis partout contempler les astres et le soleil. » Dante daigna ses jours aux Florentins, et Ravenne leur a daigné ses cendres, alors même que Michel-Ange, génie ressuscité du poète, se promettait de décorer à Florence le monument funèbre de celui qui avait appris « Come eluum s'eterna ». Le peintre du jugement dernier, le sculpteur de Moïse, l'architecte de la coupole de Saint-Pierre, l'ingénieur du vieux bastion de Florence, le poète des sonnets adressés à Dante, se joignit à ses compatriotes et appuya de ses mots la requête qu'ils présentèrent à Léon X. « Io Michel Agnolo scultore, il medesimo a vostra santita supplico, offerandomi al divin poeta fare la sepultura sua condecente e in loco onorevole in questa città. » Michel-Ange, dont le ciseau fut trompé dans son espérance, eut recours à son crayon pour élever à cet autre lui-même un autre mausolée. Il dessina les principaux sujets de la Divina Commedia sur les marges d'un exemplaire in folio des œuvres du grand poète. Un navire qui portait de Livourne à Civita Vecchia ce double monument fit naufrage. Je m'en revenais, tout ému, et ressentant quelque chose de cette commotion mêlée d'une terreur divine que j'éprouvais à Jérusalem, lorsque mon cicérone m'a proposé de me conduire à la maison de Lord Byron. Et que me faisaient Childe Harold et la signora Guiccioli en présence de Dante et de Béatrice? Le malheur et les siècles manquent encore à Childe Harold, qu'il attend de l'avenir. Byron a été mal inspiré dans sa prophétie de Dante. J'ai retrouvé Constantinople à Saint-Vital et à Saint-Apollinaire. Honorius et sa poule ne m'importaient guère. J'aime mieux Placidie et ses aventures, dont le souvenir me revenait dans la basilique de Saint-Jean-Baptiste. C'est le roman chez les barbares. Théodoric reste grand, bien qu'il ait fait mourir Boès. Ses Goths étaient d'une race supérieure. Amalasante, banni dans une île du lac de Bolsène, s'efforça, avec son ministre Cassiodore, de conserver ce qui restait de la civilisation romaine. Les exarques apportèrent à Ravenne la décadence de leur empire. Ravenne fut lombarde sous Astolphe. Les Carolingiens la rendirent à Rome. Elle devint sujette de son archevêque, puis elle se changea de république en tyrannie, finalement, après avoir été guelfe ou gibeline. Après avoir fait partie des États vénitiens, elle est retournée à l'Église sous le pape Jules II et ne vit plus aujourd'hui que par le nom de Dante. Cette ville, que Rome enfanta dans son âge avancé, eut dès sa naissance quelque chose de la vieillesse de sa mère. À tout prendre, je vivrais bien ici. J'aimerais à aller à la colonne des Français, élevée en mémoire de la bataille de Ravenne. Là se trouvèrent le cardinal de Médicis, Léon X, et Arioste, Bayard et Lautrec, frères de la comtesse de Chateaubriand. Là fut tué, à l'âge de 24 ans, le beau Gaston de Foix. Nonobstant toute l'artillerie tirée par les Espagnols, les Français marchaient toujours, dit le loyal serviteur. Depuis que Dieu créa ciel et terre, ne fut un plus cruel, ne plus dur assaut entre Français et Espagnols. Ils se reposaient les uns devant les autres pour reprendre leur haleine. Puis, baissant la vue, ils recommençaient de plus belle en criant « France et Espagne !» Il ne resta de tant de guerriers que quelques chevaliers, qui, alors, affranchis de la gloire, endossèrent le froc. On voyait aussi dans quelques chaumières une jeune fille qui, en tournant son fuseau, embarrassait ses doigts délicats dans du chanvre. Elle n'avait pas l'habitude d'une pareille vie. C'était une trivulse. Quand à travers sa porte entrebâillée, elle voyait deux lames se rejoindre dans l'étendue des flots, elle sentait sa tristesse s'accroître. Cette femme avait été aimée d'un grand roi. Elle continuait d'aller tristement par un chemin isolé, de sa chaumière à une église abandonnée et de cette église à sa chaumière. L'antique forêt que je traversais était composée de pins esselés. Ils ressemblaient à des mâts de galères engravés dans le sable. Le soleil était près de se coucher lorsque je quittai Ravenne. J'entendis le son lointain d'une cloche qui tintait. Elle appelait les fidèles à la prière. Ancône, 3 et 4 octobre. Revenu à Forlì, je l'ai quitté de nouveau sans avoir vu sur ses remparts croulants l'endroit d'où la duchesse Catherine Sforze déclara à ses ennemis, prêts à égorger son fils unique, qu'elle pouvait encore être mère. Pie VII, né à Cézanne, fut moine dans l'admirable couvent de la Madonna del Monte. Je traversais près de Savignano la ravine d'un petit torrent. Quand on me dit que j'avais passé le Rubicon, il me sembla qu'un voile se levait et que j'apercevais la terre du temps de César. Mon Rubicon, à moi, c'est la vie. Depuis longtemps, j'en ai franchi le premier bord. À Rimini, je n'ai rencontré ni Française, ni l'autre ombre sa compagne, qui au vent semblait si légère, et paron si al vento e ser leggeri. Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia m'ont amené à Ancône sur des ponts et sur des chemins laissés par les Augustes. Dans Ancône, on célèbre aujourd'hui la fête du pape. J'en entends la musique à l'arc triomphal de Trajan. Double souveraineté de la ville éternelle. Lorette, 5 et 6 octobre. Nous sommes venus coucher à Lorette. Le territoire offre un spécimen parfaitement conservé de la colonie romaine. Les paysans fermiers de Notre-Dame sont dans l'aisance et paraissent heureux. Les paysannes, belles et gaies, portent une fleur dans leur chevelure. Le prélat gouverneur nous a donné l'hospitalité. Du haut des clochers et du sommet de quelques éminences de la ville, on a des perspectives riantes sur les campagnes, sur Ancône et sur la mer. Le soir, nous avons eu une tempête. Je me plaisais à voir la Valentia Muralis et la fumeterre des chèvres s'incliner au vent sur les vieux murs. Je me promenais sous les galeries à double étage, élevées d'après les dessins de Bramante. Ces pavés seront battus des pluies de l'automne, ces brins d'herbe frémiront au souffle de l'Adriatique, longtemps après que j'aurai passé. À minuit, j'étais retiré dans un lit de 8 pieds carrés consacré par Bonaparte. Une veilleuse éclairait à peine la nuit de ma chambre. Tout à coup, une petite porte s'ouvre et je vois entrer mystérieusement un homme menant avec lui une femme voilée. Je me soulève sur le coude et le regarde. Il s'approche de mon lit et se hâte, en se courbant jusqu'à terre, de me faire 1000 excuses de troubler ainsi le repos de monsieur l'ambassadeur. Mais il est veuf. Il est un pauvre intendant. Il désire marier sa ragazza, ici présente. Malheureusement, il lui manque quelque chose pour la dot. Il relève le voile de l'orpheline. Elle était pâle, très jolie, et tenait les yeux baissés avec une modestie convenable. Ce père de famille avait l'air de vouloir s'en aller et laisser la fiancée m'achever son histoire. Dans ce pressant danger, je ne demandais point à l'obligeant infortuné, comme demanda le bon chevalier à la mère de la jeune fille de Grenoble, si elle était vierge. Tout ébouriffé, je pris quelques pièces d'or sur la table près de mon lit, je les donnai, pour faire honneur au roi mon maître, à la Zitella, dont les yeux n'étaient pas enflés à force d'avoir pleuré. Elle me baisa la main avec une reconnaissance infinie. Je ne prononçai pas un mot, et retombant sur mon immense couche, comme si je voulais dormir, la vision de Saint-Antoine disparut. Je remerciai mon patron, Saint-François, dont c'était la fête. Je restai dans les ténèbres, moitié riant, moitié regrettant, et dans une admiration profonde de mes vertus. C'était pourtant ainsi que je semais l'or, que j'étais ambassadeur, hébergé en toute pompe chez le gouverneur de Lorette, dans cette même ville où le Tasse était logé dans un mauvais bouge, et où, faute d'un peu d'argent, il ne pouvait continuer sa route. Il paya sa dette à Notre-Dame de Lorette par sa canzone, « E cofra le tempeste e i fieri venti ». Madame de Chateaubriand fit amende honorable de ma passagère fortune en montant à genoux les degrés de la Santa Chiesa. Après ma victoire de la nuit, j'aurais eu plus de droit que le roi de Saxe de déposer mon habit de noces au trésor de Lorette. Mais je ne me pardonnerai jamais, à moi, chétif enfant des muses, d'avoir été si puissant et si heureux là où le chantre de la Jérusalem avait été si faible et si misérable. Torquato, ne me prends pas dans ce moment extraordinaire de mes inconstantes prospérités. La richesse n'est pas mon habitude. Vois-moi dans mon passage à Namur, dans mon grenier à Londres, dans mon infirmerie à Paris, afin de me trouver avec toi quelque lointaine ressemblance. Je n'ai point, comme Montaigne, laissé mon portrait en argent à Notre-Dame de Lorette, ni celui de ma fille, Leonora Montana, filia unica. Je n'ai jamais désiré me survivre. Mais pourtant une fille, et qui porterait le nom de Léonore. Spoleto, après avoir quitté Lorette, passé Macerata, laissé Tolentino qui marque un pas de Bonaparte et rappelle un traité, j'ai gravi les derniers redans de l'Apennin. Le plateau de la montagne est humide et cultivé comme une houblonnière. À gauche étaient les mers de la Grèce, à droite celles de l'Ibérie. Je pouvais être pressé du souffle des brises que j'avais respiré à Athènes et à Grenade. Nous sommes descendus vers l'Ombrie, en circulant dans les volutes des gorges exfoliées où sont suspendus dans des bouquets de bois les descendants de ces montagnards qui fournirent des soldats à Rome après la bataille de Trasimène. Foligno possédait une vierge de Raphaël, qui est aujourd'hui, je crois, entre les mains du cardinal Fesch. Wenné, dans une position charmante, est à la source du Clitumne. Le Poussin a reproduit ce site chaud et suave. Byron l'a froidement chanté. Spoleto a donné le jour au pape actuel. Selon mon courrier, Giorgini, Léon XII a placé dans cette ville les galériens pour honorer sa patrie. Spoleto osa résister à Hannibal. Elle montre plusieurs ouvrages de Lippi l'Ancien, qui, nourri dans le cloître, esclave en barbarie, espèce de Cervantes chez les peintres, mourut, à 60 ans passés, du poison que lui donnèrent les parents de Lucrèce, séduite par lui, croyait-on. Civita Castellana. À Montelupo, le comte Potoski s'ensevelit dans des laures charmantes. Mais les pensées de Rome ne les suivirent-elles point? Ne se croyait-il pas transporté au milieu des cœurs des jeunes filles? Et moi aussi, comme saint Jérôme, j'ai passé, dans mon temps, le jour et la nuit à pousser des cris, à frapper ma poitrine, jusqu'au moment où Dieu me renvoyait la paix. Je regrette de ne plus être ce que j'ai été. Plan gomme non esse quod fuerim. Après avoir dépassé les ermitages de Montelupo, nous avons commencé à contourner la Somma. J'avais déjà suivi ce chemin dans mon premier voyage de Florence à Rome par Pérouse, en accompagnant une femme mourante. à la nature de la lumière et à une sorte de vivacité du paysage, je me serais cru sur une des croupes des Allegheny. N'était qu'un haut aqueduc, surmonté d'un pont étroit, me rappelait un ouvrage de Rome auquel les ducs lombards de Spoleto avaient mis la main. Les Américains n'en sont pas encore à ces monuments qui viennent après la liberté. J'ai monté la Somma à pied, près des bœufs du Clitumne qui traînaient Madame l'ambassadrice à son triomphe. Une jeune chevrière maigre, légère et gentille comme Sabique, me suivait, avec son petit frère, dans ses opulentes campagnes, en me demandant la carita. Je la lui ai faite en mémoire de Madame de Beaumont, dont ces lieux ne se souviennent plus. Alas, regardless of their doom, the little victims play. No sense have they of ills to come, nor care beyond today. Hélas, sans souci de leur destinée, folâtrent les petites victimes. Elles n'ont ni prévision des maux à venir, ni soin d'outre-journée. J'ai trouvé Terni et ses cascades. Une campagne plantée d'oliviers m'a conduit à Narni. Puis, en passant par Otricoli, nous sommes venus nous arrêter à la triste Civita Castellana. Je voudrais bien aller à Santa Maria di Falieri pour voir une ville qui n'a plus que la peau, son enceinte. À l'intérieur, elle était vide. Misère humaine à Dieu ramène. Laissons passer mes grandeurs et je reviendrai chercher la ville des Falisques. Du tombeau de Néron, je vais montrer bientôt à ma femme la croix de Saint-Pierre qui domine la ville des Césars. Chapitre 3. Lettres à Madame Récamier. Vous venez de parcourir mon journal de route. Vous allez lire mes lettres à Madame Récamier, entremêlées, comme je l'ai annoncé, de pages historiques. Parallèlement, vous trouverez mes dépêches. Ici paraîtront distinctement les deux hommes qui existent en moi. À Madame Récamier, Rome, ce 11 octobre 1828. J'ai traversé cette belle contrée rempli de votre souvenir. Il me consolait, sans pourtant m'ôter la tristesse de tous les autres souvenirs que je rencontrais à chaque pas. J'ai revu cette mer Adriatique que j'avais traversée il y a plus de 20 ans. Dans quelle disposition d'âme! À Terni, je m'étais arrêté avec une pauvre expirante. Enfin, je suis entré dans Rome. Ces monuments, après ceux d'Athènes, comme je le craignais, m'ont paru moins parfaits. Ma mémoire des lieux, étonnante et cruelle à la fois, ne m'avait pas laissé oublier une seule pierre. Je n'ai vu personne encore, excepté le secrétaire d'État, le cardinal Bernetti. Pour avoir à qui parler, je suis allé chercher Guérin, hier au coucher du soleil. Il m'a paru charmé de ma visite. Nous avons ouvert une fenêtre sur Rome, et admirer l'horizon. C'est la seule chose qui soit restée, pour moi, telle que je l'ai vue. Mes yeux ou les objets ont changé, peut-être les uns et les autres. Chapitre 4. Léon XII et les cardinaux. Les premiers moments de mon séjour à Rome furent employés à des visites officielles. Sa sainteté me reçut en audience privée. Les audiences publiques ne sont plus d'usage et coûtent trop cher. Léon XII, prince d'une grande taille et d'un air à la fois serein et triste, est vêtu d'une simple soutane blanche. Il n'a aucun faste et se tient dans un cabinet pauvre, presque sans meubles. Il ne mange presque pas. Il vit, avec son chat, d'un peu de polenta. Il se sait très malade et se voit dépérir avec une résignation qui tient de la joie chrétienne. Il mettrait volontiers, comme Benoît XIV, son cercueil sous son lit. Arrivé à la porte des appartements du pape, un abbé me conduit par des corridors noirs jusqu'au refuge ou au sanctuaire de sa sainteté. Elle ne se donne pas le temps de s'habiller, de peur de me faire attendre. Elle se lève, vient au-devant de moi, ne me permet jamais de mettre un genou en terre pour baiser le bas de sa robe au lieu de sa mule, et me conduit par la main jusqu'au siège placé à droite de son indigent fauteuil. Assis, nous causons. Le lundi, je me rends à 7 heures du matin chez le secrétaire d'État, Bernetti, homme d'affaires et de plaisir. Il est lié avec la princesse Doria. Il connaît le siècle et n'a accepté le chapeau de cardinal qu'à son corps défendant. Il a refusé d'entrer dans l'église, n'est sous-diacre qu'à Brevet, et se pourrait marier demain en rendant son chapeau. Il croit à des révolutions et il va jusqu'à penser que, si sa vie est longue, il a des chances de voir la chute temporelle de la papauté. Les cardinaux sont partagés en 3 factions. La première se compose de ceux qui cherchent à marcher avec le temps, et parmi lesquels se rangent Benvenuti et Oppizoni. Benvenuti s'est rendu célèbre par l'extirpation du brigandage et sa mission à Ravenne après le cardinal Rivarola. Oppizoni, archevêque de Bologne, s'est concilié les diverses opinions dans cette ville industrielle et littéraire, difficile à gouverner. La seconde faction se forme des Zelanti, qui tentent à rétrograder. Un de leurs chefs est le cardinal Odescalchi. Enfin, la troisième faction comprend les immobiles vieillards, qui ne veulent ou ne peuvent aller ni en avant ni en arrière. Parmi ces vieux, on trouve le cardinal Vidoni, espèce de gendarme du traité de Tolentino. Gros et grand, visage allumé, calotte de travers. Quand on lui dit qu'il a des chances à la papauté, il répond « Lo santo spirito sarebbe dunque ubriaco ». Il plante des arbres à Ponte Molle, où Constantin fit le monde chrétien. Je vois ces arbres lorsque je sors de Rome par la porte du peuple pour rentrer par la porte angélique. Du plus loin qu'il m'aperçoit, le cardinal me crie « Ah, ah, signor ambassadore di Francia !» Puis il s'emporte contre les planteurs de ses pins. Il ne suit point l'étiquette cardinaliste. Il se fait accompagner par un seul laquais dans une voiture à sa guise. On lui pardonne tout en l'appelant Madama Vidoni. Entre parenthèses, quand j'ai quitté Rome, il a acheté ma calèche et m'a fait l'honneur d'y mourir en allant à Ponte Molle. Note de Paris, 1836, note de l'auteur. Chapitre 5. Les ambassadeurs. Mes collègues d'ambassade sont le comte Lutzow, ambassadeur d'Autriche, homme poli. Sa femme chante bien, toujours le même air, et parle toujours de ses petits-enfants. Le savant baron Bunsen, ministre de Prusse, et ami de l'historien Niebuhr, entre parenthèses, je négocie auprès de lui la résiliation en ma faveur du bail de son palais sur le Capitole. Le ministre de Russie, le prince Gagarine, exilé dans les grandeurs passées de Rome pour des amours évanouis. S'il fut préféré par la belle Madame Narychkine, un moment habitante de mon ancien ermitage d'Aulnay, il y aurait donc un charme dans la mauvaise humeur. On domine plus par ses défauts que par ses qualités. Monsieur de Labrador, ambassadeur d'Espagne, homme fidèle, parle peu, se promène seul, pense beaucoup, ou ne pense point, ce que je ne sais démêler. Le vieux comte Fuscaldo représente Naples, comme l'hiver représente le printemps. Il a une grande pancarte de carton sur laquelle il étudie avec des lunettes, non les champs de roses de Paestum, mais les noms des étrangers suspects dont il ne doit pas viser les passeports. J'envie son palais, Farnèse, admirable structure inachevée que Michel-Ange couronna, que peignit Annibal Carracci, aidé d'Augustin, son frère, et sous le portique duquel s'abrite le sarcophage de Cecilia Metellia, qui n'a rien perdu au changement de mausolée. Fuscaldo, en loque d'esprit et de corps, a, dit-on, une maîtresse. Le comte de Celles, ambassadeur du roi des Pays-Bas, avait épousé Mademoiselle de Valence, aujourd'hui morte. Il en a eu deux filles, qui par conséquent sont petites-filles de Madame de Genlis. Monsieur de Celles est resté préfet, parce qu'il l'a été. Caractère mêlé du loquace, du tyranno, du recruteur et de l'intendant qu'on ne perd jamais. Si vous rencontrez un homme qui, au lieu d'arpents, de toises et de pieds, vous parle d'hectares, de mètres et de décimètres, vous avez mis la main sur un préfet. Monsieur de Funchal, ambassadeur demi-avoué du Portugal, est ragotin, agité, grimacier, vert comme un singe du Brésil et jaune comme une orange de Lisbonne. Il chante pourtant sa négresse, ce nouveau Camoens. Grand amateur de musique, il tient à sa solde une espèce de Paganini en attendant la restauration de son roi. Par-ci, par-là, j'ai entrevu de petits finauds, de ministres, de divers petits états, tous scandalisés du bon marché que je fais de mon ambassade. Leur importance boutonnée, gourmée, silencieuse, marche les jambes serrées et à pas étroits. Elle a l'air prête à crever de secrets qu'elle ignore